On va maintenant donner la parole à Madame Christine Balaguet, professeure à l'Institut Mines-Télécom et qui a été vice-présidente du Conseil national du numérique. Donc c'est avec attention que nous écoutons votre intervention.
Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Izard de m'avoir convié à cette journée que je trouve passionnante parce que pour avoir très modestement participé à l'élaboration de la loi, c'est vraiment très intéressant de voir vos retours et toutes ces présentations de grande qualité. Et je me faisais la réflexion en vous écoutant de. C'est tellement, je dirais, intéressant que peut-être ça serait bien de diffuser cette table ronde, de la filmer, peut-être de la diffuser, parce qu'effectivement, le Conseil national du numérique ou des instances pourraient être intéressés par avoir tous ces retours. Alors moi, je suis à l'Institut Mines Télécom, donc c'est un regroupement des écoles des mines Télécom. Je suis à Télécom École de Management, qui est une école qui traite donc les questions de numérique et je suis non pas professeur de droit mais professeur en sciences de gestion et je suis là parce que j'ai participé pendant 3 ans au Conseil national du numérique. J'ai été vice-présidente de 2013 à 2016 et donc on a dans le cadre de nos travaux participé à l'élaboration de cette loi, en tout cas aux différentes étapes et donc ma modeste contribution va être de vous expliquer un peu par le vécu qu'est-ce qu'on a pu faire au travers de ce Conseil national du numérique. Alors le Conseil national du numérique, pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément, c'est un conseil qui a été créé sous Nicolas Sarkozy, qui a vécu donc un peu plus de 2 ans sous Nicolas Sarkozy. Sous ce président, la constitution du Conseil national du numérique était très axée sur des professionnels, des start-upeurs en particulier. Et ce Conseil national du numérique a été renouvelé en tout début 2013, et donc j'ai été nommée par le président de la République début 2013, et donc pour une mission de 3 ans. Et dans cette deuxième version du Conseil national du numérique, nous étions beaucoup d'académiques. Nous étions beaucoup d'académiques, sachant que quand même c'est un mélange de grands groupes, de start-up, quelques représentants de collectivités et on était quand même une bonne partie d'académiques. Ce qui fait que ce conseil, pendant 3 ans, a fait de nombreux rapports. On a remis, je crois, 16 rapports au gouvernement, avec des rapports assez, je dirais, enfin, avec des réflexions assez approfondies. Et donc le Conseil national du numérique a rechangé depuis le début de l'année 2016, avec aujourd'hui d'ailleurs une vision qui est de nouveau un peu plus opérationnelle qu'une réflexion un peu plus théorique sur un certain nombre de concepts. Alors, juste en introduction, pour aussi vous expliquer un peu la genèse des travaux du Conseil national du numérique qui ont nourri la loi, c'est que quand on est arrivé au Conseil national du numérique, on s'est posé tout de suite la question de comment on va procéder. C'est-à-dire, on n'avait pas du tout envie, sur les grandes questions autour du numérique, d'écouter pendant des heures, les uns après les autres, les acteurs, les lobbies, etc., etc. Et donc, on a décidé de mettre en place une méthodologie qui s'appelait les vendredi contributif, c'est-à-dire que tous les organismes sur les sujets que l'on a traités pour les différents ministères, tous les organismes et entreprises qui souhaitaient répondre aux questions qui étaient posées, nous envoyaient un document, style un working paper, avant de venir. Et les vendredis contributifs, on se mettait tous autour d'une table, on oubliait les positions de chacun, même si elles étaient présentes, mais on se mettait dans une situation de construction du futur. Et donc, c'était assez intéressant, puisqu'on essayait d'éviter de passer beaucoup, beaucoup de temps avec certains et moi avec d'autres. Et on a mis, je dirais, les acteurs dans une position de construction. Alors, ça, c'est mon ADN. Moi, dans mes différents travaux, j'avais lancé aussi un think tank qui existe toujours, qui s'appelle Renaissance numérique. Dans mes travaux dans la chaire, je pilote une chaire sur réseaux sociaux et objets connectés à l'Institut Mines Télécom. Mon ADN, c'est de dire, dans cette société numérique qui s'est quand même beaucoup transformée, vous l'avez très bien dit, avec des technologies qui transforment l'industrie, tous les secteurs économiques et puis la vie de nous tous, concitoyens et puis individus, Donc les conséquences sont considérables et, me semble-t-il, il faut être acteur. Il faut construire ce monde. Et donc ça a toujours été, moi, mon quotidien, que d'essayer de réfléchir à comment on peut faire avancer ces sujets et construire, co-construire ensemble cette société numérique. D'où aussi peut-être ma nomination au Conseil national du numérique. Alors, ces introductions faites, revenons sur la genèse. Donc nous, on est arrivé début 2013, et la première saisine, donc à l'époque c'était Fleur Pellerin, qui était secrétaire d'État au numérique, la première saisine que nous avons reçue et que j'ai pilotée, c'était sur la neutralité du net. Alors ce débat, il datait de 20 ans, c'est pas nouveau la neutralité du net, hein. Le démarrage des débats c'est 2000, beaucoup de débats aux États-Unis, des allers-retours, beaucoup de débats au niveau européen, et donc on a remis un rapport un avis à Fleur Pellerin sur la nécessité de poser la neutralité du net dans la loi, ce qui est fait avec la loi pour une république numérique, avec tout à fait les excellentes remarques et limites que vous avez évoquées. Mais sur ce point-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en débattre si vous le souhaitez, mais il y a eu énormément de discussions, en particulier sur la gestion de trafic, en particulier sur l'itinérance, tous les points que vous avez évoqués, et qui sont très bien documentés dans l'avis du Conseil national du numérique, et puis au niveau européen aussi, si vous voulez aller plus loin sur ces questions. Mais effectivement, il y a encore un vrai débat là-dessus sur la difficulté aujourd'hui d'appliquer la loi, hein, parce que c'est bien beau de dire voilà, mais après comment on l'applique, c'est un peu plus complexe. Alors donc sur cette première démarche, sur le fait qu'on avait dit il faut pousser la neutralité du net, suite à des discussions qu'on a eues avec un certain nombre d'acteurs économiques, s'est posée la question, puisque la neutralité du net, je caricature, mais est assez positive pour des acteurs économiques de fournisseurs de contenu. Il y a eu une réaction évidemment des acteurs télécoms, des réseaux télécoms, en disant c'est encore nous, on paye non seulement les 20 milliards de fibres, c'est nous qui amenons les réseaux, et en plus on nous impose la neutralité du net. Donc on a réfléchi à ces questions-là, et du coup on s'est saisi d'un autre sujet après la neutralité du net. Alors pourquoi je vous cite tout ça? Parce que vous allez voir, ça, on retrouve des éléments dans la loi pour une république numérique. Vraiment, je me souviens très bien de cette réunion, il y avait lors de la Raudière, parce que je n'ai pas dit que le Conseil national du numérique aussi a une dizaine de parlementaires, hein, qui ne font pas partie du Conseil, mais qu'on consulte régulièrement sur un certain nombre de questions. Bon, les 10, et c'est toujours les mêmes, qui connaissent bien ces questions. Et donc, on a évoqué cette question de neutralité des plateformes, qui est arrivée dans le débat. Et donc, on a fait un rapport. Alors là, on a rencontré beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup de petits acteurs, entreprises, etc., qui se heurtaient à la question de ces plateformes dominantes, hein, puisque les 25 ans passés de numérique, c'est pas nouveau, hein, ça fait 25 ans qu'on y est quand même, un quart de siècle, donc il est temps d'avoir quand même des lois sur ce sujet et des lois applicables. Donc ces start-up, ces PME, elles se heurtent à la question de ces plateformes dominantes qui sont Google, Amazon, Apple, Facebook, Twitter, ce qu'on appelle les GAFA ou avec d'autres termes aujourd'hui, et donc se pose la question de la neutralité des plateformes. Et donc on a écrit un rapport, et donc là on a rencontré, je crois, presque 500 acteurs, on a fait des réunions régulières, on a écrit un rapport sur la neutralité des plateformes, et ce rapport a généré tout un tas d'idées autour de la loyauté que vous retrouvez dans la loi, de la transparence, et donc ça a été un début de réflexion autour de ces concepts-là. Et puis on a écrit d'autres rapports qu'on retrouve un peu dans la loi, un gros rapport sur l'inclusion numérique, hein, avec cette nécessité derrière de ne pas avoir une société à deux vitesses. Et puis bon, vous pourrez aller voir beaucoup de rapports aussi sur la fiscalité, etc., qu'on ne retrouve pas forcément dans la loi. Donc, si vous voulez, des réflexions, et nous, on a essayé de réfléchir sur ces nouveaux concepts qui pourraient, notamment la question de la loyauté des plateformes ou la loyauté dans le numérique qui nous intéressait, ou la donnée d'intérêt général. À ce moment-là, on a aussi discuté la question des données d'intérêt général. Donc, vous trouverez tous ces éléments dans nos différents rapports. Après, donc ça c'était 2013-2014. Et en 2014, j'ai aussi été amenée à participer au groupe de réflexion du Conseil d'État. Donc ça s'appelait groupe de contact pour ce rapport du Conseil d'État sur le nouveau droit au numérique. Et donc le Conseil d'État avait un groupe ouvert, nous étions un certain nombre d'acteurs, il y avait des scientifiques en sciences dures, et il y avait Alain Bensoussan, enfin il y avait un certain nombre d'acteurs, et donc une réflexion, et je trouvais très intéressant ce rapport du Conseil d'État, puisqu'il y avait des notions particulièrement pertinentes que l'on ne retrouve pas forcément, comme la question de l'autodétermination informationnelle, et des nouveaux concepts qui étaient sortis aussi au niveau de cette étape du rapport du Conseil d'État. Ça, c'était 2014. Et 2015, alors je ne me souviens plus, c'était fin 2014, le Conseil national du numérique a été saisi non pas par un ministère, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais on a été saisi par le Premier ministre, Manuel Valls, qui, pour des raisons peut-être diverses, mais nous a saisi en disant... je voudrais un rapport que l'on a nommé donc Ambition numérique, qu'on lui a remis le 18 juin 2015, qui traite les grandes questions du numérique, mais la demande était de faire une concertation nationale. Donc nous avons piloté, avant même la concertation nationale de la loi, nous avons créé au Conseil national du numérique cette concertation sur le rapport Ambition numérique. Donc il y avait quatre parties dans ce rapport. Une première... je parle de la concertation. Donc dans cette concertation nationale, en fait, on a travaillé donc, avec le site que vous avez cité tout à l'heure. Et cette concertation nationale, avant même la loi, traitait de toutes les questions de la loi numérique, pour une république numérique. Alors cette concertation, je mets un petit bémol par rapport à ce qui a été dit ce matin par l'un des groupes. Elle a été assez large, c'est-à-dire qu'on l'a organisée physiquement et sur le web. C'est-à-dire sur le web, les personnes pouvaient contribuer, mais on a également mis en place avec le Conseil national du numérique, et ça a très bien fonctionné, tout un tas de réunions physiques. Donc il y avait des universités qui organisaient physiquement une réflexion sur ces grandes questions du numérique. Il y avait un certain nombre d'acteurs économiques, des régions qui ont fait des événements pour remonter des idées sur les différentes thématiques d'ambition numérique. Alors ce rapport, donc ensuite toutes ces thématiques sont remontées, et nous, le travail du Conseil national du numérique après, ça a été de dire on prend tous ces commentaires, tous ces inputs, mais on y réfléchit, on ne les prend pas tous, on fait notre choix, puisque nous, on est là comme conseil. Et donc, on a eu beaucoup de débats entre nous sur qu'est-ce qu'on met dans le rapport final remis au Premier ministre. Et donc, dans ce rapport final, que vous pouvez lire, qui est Ambition numérique, qui est téléchargeable, dans la deuxième partie de ce rapport et la troisième partie, elles sont très liées à des éléments qu'on retrouve dans la loi pour une république numérique. La deuxième partie porte sur la question de la protection de la donnée, la question de la loyauté des plateformes, la question des algorithmes. Alors moi j'ai beaucoup poussé, c'était dans ce texte, et je vais vous en reparler tout à l'heure, on propose une agence de notation pour réguler les algorithmes. Reparler. Mais donc il y a tout un tas d'idées dans cette deuxième partie du rapport Ambition numérique qui a nourri la loi sur la partie protection des données. Et puis dans la troisième partie du rapport, il y avait toute une réflexion sur les données, le gouvernement ouvert. Et donc c'est là où il y avait tout un tas d'éléments sur, évidemment, les données publiques et les données issues où un autre organisme a beaucoup joué aussi dans l'élaboration de la loi, c'est Etalab. Et notamment Henri Verdier, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui en France, sur ces questions de données publiques, d'ouverture de données publiques, on est parmi les pays les plus avancés. Après les États-Unis, on a un CDO, Chief Data Officer, qui est aujourd'hui responsable en plus de tous les systèmes informatiques du gouvernement et qui pousse énormément ces questions-là. Donc la loi quand même a bien avancé sur ces questions. Voilà, donc simplement pour vous dire que dans ce vécu, hein, ce rapport a été, si vous voulez, une première contribution. Et donc ce rapport, on l'avait remis à Manuel Valls. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres gens qui ont réfléchi, il n'y a pas que le Conseil national du numérique. Mais cette démarche qu'on avait faite de concertation nationale pour le rapport Ambition numérique a beaucoup plu. Donc là, à l'époque, c'était Axel Lemaire, a beaucoup plu à Axel Lemaire. Et du coup, il y a eu cette réflexion qui est de dire, on se nourrit du rapport Ambition numérique et de plein d'autres rapports, du rapport du Conseil d'État, etc. On écrit un premier jet de la loi et on reconsulte les citoyens. Mais c'était dans un deuxième temps, quand même, hein, puisque beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup de lobbies, et puis des citoyens avaient déjà réagi sur le rapport Ambition numérique. Et donc, c'est la même plateforme qui a été utilisée. Et donc, on a refait, c'est le Conseil national du numérique qui a piloté aussi ça, on a refait cet exercice, hein, qui a des avantages et qui a aussi des inconvénients. Hein. La démocratie participative, c'est un débat, il y a beaucoup d'ouvrages, et c'est aussi tout un domaine de recherche aujourd'hui. On sait bien qu'on ne va pas tout prendre et tout intégrer dans la loi. Hein. Donc il y a des gens qui n'étaient pas contents, mais c'est quand même l'État qui décide, ou en tout cas aussi les députés. Et donc, voilà, c'était simplement pour vous dire ces différentes étapes qui ont été menées dans le cadre de la loi. Alors, bien évidemment, et ça a été dit ce matin, la loi, elle a été réduite à une peau de chagrin, quoi. C'est évident par rapport au premier texte auquel nous, on avait participé. Et pour tout un tas de raisons, et là, je vais partager avec vous aussi du vécu, mais ça a été déjà dit ce matin. La première contrainte, c'est évidemment le temps politique n'est pas le temps de la réflexion. Et tout ça se fait toujours de manière, c'est paradoxal, mais de manière trop rapide. C'est toujours trop rapide. Deuxièmement, on l'a évoqué ce matin, ces questions sont des questions difficiles. Sont des questions techniques. Et on parlait tout à l'heure de niveau de compétence, hein, des juges et de la justice par rapport à certaines personnes au sein de l'appareil juridique sur ces questions. C'est la même chose au niveau des politiques et c'est la même chose au niveau des députés. Pour vous donner deux exemples, pour le rapport de Manuel Valls, de l'ambition numérique, comme c'était un rapport qu'on rendait au Premier ministre, il y avait des réunions interministérielles régulières, vraiment tous les 15 jours, où on montrait ce que les gens remontaient pour, données. Et alors, les réunions interministérielles, en général, sur les sujets, il y a 2-3 personnes. Et nous étions très étonnés que sur ce sujet de concertation nationale autour du numérique, eh bien, quasiment tous les ministères étaient présents. Et pourquoi ? Parce que c'était aussi pour eux une manière de se mettre à niveau sur ces sujets. Et donc, je crois qu'il y a aussi, un intérêt à cette loi, en tout cas, nous, dans la modeste contribution qu'on a pu y faire, c'est d'essayer de faire de la pédagogie sur ces sujets difficiles et d'essayer de contribuer à une montée en compétence sur ces sujets. Deuxième exemple que moi j'ai vécu sur la neutralité du net, on est allé faire des dîners avec des députés pour essayer d'expliquer cette loi, pour essayer d'en expliquer, de discuter tous les points que vous mentionniez très bien. Mais les députés nous disaient, bon, déjà à l'Assemblée nationale, il y a 10 personnes grand maximum qui s'intéressent aux questions du numérique, et ça fait 10 ans que ça dure, hein. Et qui les maîtrisent. La deuxième chose, c'est que la neutralité du net, certains députés me disent, convaincus de la neutralité du net, me disaient, mais pourquoi voulez-vous que moi j'aille porter cette loi ? Aucun concitoyen dans ma circonscription ne me parle de neutralité du net. C'est hyper technique. Donc moi je vais aller me battre sur... Même les questions, par exemple, sur le handicap, etc., ça, c'est des questions qui parlent aux gens, mais la neutralité du net. Et donc, c'est difficile d'aller trouver des gens qui portent ce sujet, qui ont envie que ce sujet, ces sujets avancent, sachant que la neutralité du net, ça touche la liberté d'innover, mais ça touche la liberté d'expression, enfin, on peut en débattre, mais ça touche tous les individus, c'est un sujet très grand public. Mais pour en faire de la pédagogie grand public, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, on se heurte à ça, quoi. On se heurte à ces questions de comment on fait pour que, à l'Assemblée nationale, ces sujets soient maîtrisés. Alors c'est là où vous avez très bien dit ce matin qu'entre le texte de loi, entre le moment où le texte de loi est arrivé à l'Assemblée et le moment où il a été voté, il y a eu plein d'amendements. Et ces amendements, bon, ne sont pas toujours, voilà, sont parfois un peu légers, on pourrait dire, ou en tout cas, je pense aussi à, pour cette raison-là. Deuxième élément, le problème dans tous ces textes de loi autour de cette société numérique, c'est de concilier deux mondes, un monde économique où on veut de la liberté d'innover, et puis un monde où on veut protéger les citoyens, on veut protéger les internautes d'un certain nombre de conséquences liées à des économies parfois très intrusives, enfin des modèles d'affaires qui sont très intrusifs. Et c'est compliqué, c'était compliqué pendant cette période, parce que je rappelle quand même qu'on était, et on est toujours un peu, en période de crise économique. Et donc c'était difficile aussi d'imposer une loi très stricte en termes de régulation par rapport à une période où, malgré tout, le secteur du numérique était un secteur clé emploi, qui, alors malgré les débats sur l'emploi aujourd'hui, mais qui était quand même plutôt en croissance. Et donc je pense que le contexte aussi a fait que cette loi était moins, je dirais, précise sur certains éléments qu'en raison de la crise. Quatrième élément, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît tout ça, mais les lobbies, quand on met un texte de loi à partir de là, il est évidemment, il bouge en fonction d'une pression très forte d'un certain nombre de lobbies, et ça a été le cas de cette loi, c'est clair. Voilà. Ceci étant, cette loi, elle a quand même un certain nombre de conséquences, et elle a, il faut quand même être très avoir en tête que cette loi, elle a quand même des conséquences sur les acteurs économiques. J'en prends un que je connais. Vous avez parlé de l'ouverture des données, par exemple, des acteurs de l'énergie. Alors, il se trouve que je suis au conseil scientifique de GRDF sur les données, parce que un acteur comme GRDF s'est retrouvé du jour au lendemain avec un temps très court, et ils doivent rouvrir toutes leurs données. Ils sont perdus. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas les conséquences que ça peut avoir, surtout qu'il y a plein d'intermédiaires dans la chaîne de valeur, et donc ça a des conséquences sur un certain nombre d'acteurs qui sont vraiment non négligeables. La neutralité du net a des conséquences aussi, sur la question des données ouvertes, ça a des conséquences. Je reviendrai sur la question des algorithmes tout à l'heure. Et puis je crois que cette loi, même si elle a été très réduite, hein, et on est tous, c'est très dommageable qu'elle soit réduite, mais c'est un premier pas sur peut-être un mode de concertation nouvelle, mais de mon point de vue, c'est pas forcément ce vers quoi il faut aller, il faut réfléchir à ces modes de concertation participative, ça demande une réflexion. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a ouvert un certain nombre de nouveaux sujets, pas assez à mon goût, mais de nouveaux sujets. Donc cette question de la loyauté, voilà, la question de la loyauté, la question de la transparence, la question des données d'intérêt général. Là, ça ne concerne que les administrations, mais évidemment, le next step, c'est de se dire que un certain nombre d'entreprises privées ont peut-être un certain nombre de données qui pourraient être considérées comme d'intérêt général, et que peut-être on fera avancer un certain nombre de grands sujets si on mélangeait des données publiques et des données privé. Je prends l'exemple dans le domaine de la santé sur la diffusion, sur l'étude des virus par exemple ou autre. Bon. Donc ça ouvre des portes. Évidemment sur, par exemple, la question des données. Ce matin dans la présentation, je réagissais par rapport à la manière dont vous présentiez, parce que vous présentiez essentiellement par rapport à l'Internet. Les données par rapport aux internautes. Mais aujourd'hui, les données, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'Internet des objets. et les données, tout objet est connectable, tout va être connecté, et donc on est dans un... là, en termes de loi, tout est à faire. Hein. Enfin, je suis très modeste en disant ça, parce que c'est vous qui maîtrisez plus les sujets, mais il y a quand même des problèmes de régulation, de responsabilisation hein, sur les véhicules connectés, sur tout un tas de problématiques non traitées aujourd'hui juridiquement. Et donc ça ouvre des portes, hein, cette loi, de réflexion sur des sujets qui ne vont faire qu'évoluer dans le futur. Alors, pour terminer, je voulais juste parler aussi des enjeux futurs par rapport à cette loi. Il y a un sujet sur lequel je travaille aujourd'hui et qui est un peu la suite d'un élément de cette loi, qui est il va y avoir des enjeux importants en termes de régulation. C'est la régulation des algorithmes. Vous l'avez évoqué sur les algorithmes publics. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi très récemment. Il y a une association qui a fait une demande auprès de la CADA pour que l'algorithme APB, alors APB, vous savez, c'est l'algorithme, vous êtes tous passés par APB, pour l'orientation, alors déjà c'est l'orientation post-troisième, hein, et puis après post-bac, bien sûr. Et cette association a gagné, donc le ministère de l'Éducation est obligé de rendre public l'algorithme APB. Pour quelle raison ? Parce que cet algorithme crée des distorsions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui pose problème. Et donc, voyez, là, ça touche quand même beaucoup de gens, on va avoir cet algorithme ouvert. Alors, la question de la régulation des algorithmes, donc là, c'est que public dans le cadre de la loi, mais il y a eu un rapport à Bercy sur la question de la régulation des algorithmes, là, non pas public, mais privé, qui est sorti et qui a donné lieu à une plateforme qui s'appelle Transalgo, et je suis au conseil scientifique de Transalgo, qui est une plateforme scientifique. Alors, je rappelais tout à l'heure que moi, j'avais beaucoup poussé au Conseil national du numérique la régulation des algorithmes par une agence de notation. Je trouvais que c'était une très bonne idée d'avoir une agence de notation indépendante, parce qu'il faut quand même aussi pouvoir juger de l'algorithme de... le ministère de l'Intérieur, par exemple. Hein. Et donc, bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait, mais du coup, cette plateforme Transalgo, c'est une plateforme qui est pilotée par l'INRIA et qui est destinée à des scientifiques, mais dans lequel il va y avoir une partie grand public. Et ceux qui s'intéressent à la régulation des algorithmes, il va y avoir tout un tas de papiers de recherche mis là-dedans, tout un tas de vulgarisation. Il y a beaucoup de travaux menés. Il y a des rapports du bureau d'Obama, il y a des rapports dans un certain nombre de pays. Et donc, cette question de régulation des algorithmes est une vraie question aujourd'hui. Et donc là, on retrouve quoi ? On retrouve la question de la loyauté d'un algorithme, la question de l'équité, la question de la non-discrimination. Alors, on a fait une réunion la semaine dernière, hein, lorsqu'on est en pluridisciplinaire sur ces questions. On travaille avec beaucoup les sciences dures. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, la transparence d'un algorithme ? Donc il y a toute une réflexion à avoir aussi sur ces concepts-là. Bon, beaucoup évidemment à venir d'enjeux sur la question des données et de la sécurité. Et je crois qu'il y a une réflexion au niveau les données personnelles. On regarde toujours cette question autour des questions de privacy. Mais je crois qu'il y a une réflexion de la Commission européenne aujourd'hui qui va beaucoup plus loin, qui réfléchit à la question de l'intégrité de la personne. C'est-à-dire en quoi... aujourd'hui, ces données portent atteinte à l'intégrité de la personne. Et donc, de nouveaux concepts comme ça émergent. Bon, évidemment, toutes les questions d'économie collaborative, je ne vais pas citer tout ce qui concerne l'économie numérique, où là, il y a beaucoup de choses, évidemment, à traiter, qui ne sont pas du tout dans la loi numérique. Et ça, c'était un choix, hein, par rapport, vous l'avez très bien expliqué, par rapport à la loi Macron 2. Et donc beaucoup de travail reste à faire là-dessus. Il y a un gros travail aussi sur l'anonymisation. On sait bien techniquement que l'anonymisation, ça ne veut rien dire, techniquement. Et c'est pourtant un concept qui est utilisé juridiquement. Et donc j'en viens à mon dernier point, qui est de dire sur tous ces sujets, et c'était aussi la constitution du Conseil national du numérique. Il y avait des personnes de différents domaines. Il y avait des sciences dures, il y avait des philosophes, il y avait des acteurs économiques, etc. il faut avoir une approche pluridisciplinaire, et j'apprécie beaucoup ce que disait Jean-Jacques Gomez ce matin, c'est-à-dire il faut s'intéresser à la technique. On ne peut pas traiter ces questions sans s'intéresser à la technique. Et il faut travailler avec des sciences dures, il faut travailler avec des ingénieurs, il faut savoir leur parler aussi. Et là, je vous cite aussi une organisation dont je suis membre, et vous pouvez aller voir ses travaux si ça vous intéresse. Ça s'appelle la CERNA. C'est un comité d'éthique de la recherche sur le numérique. C'est une émanation d'Alisten. Alors, Alisten, c'est le regroupement de l'Institut Mines-Télécom, le CNRS et l'INRIA. Et donc, moi, je suis à la CERNA. Et la CERNA, on s'intéresse à l'éthique des technologies. Et donc, on a écrit un rapport sur les robots, écrit un rapport sur les données. Et là, sort début mars, un rapport, comme beaucoup de rapports, puisque c'est le sujet à la mode, sur l'intelligence artificielle. Mais pour vous donner un exemple de ce que pourrait être une loi future sur le numérique, on s'intéresse à des noms barbares, hein, le deep learning, le machine learning. Alors, c'est barbare, sauf que c'est très grand public. Facebook, c'est que du deep learning. Google, c'est que du machine learning, etc., etc. Et donc, on s'intéresse à la manière dont ces produits très grand public sont faits, et on s'intéresse à la responsabilisation des gens. Et donc, là, on travaille avec... Bon, il y a beaucoup de profs très reconnus dans le domaine des sciences dures, dans ce conseil, dans la CERNA. Et donc, on a décortiqué scientifiquement toutes ces méthodes. On les dépaisse, si je puis dire, pour aller juridiquement, puisqu'il y a aussi des profs émérites en droit, juridiquement, aller voir toutes les questions de responsabilité. Alors, c'est des travaux qui se veulent un rapport d'un conseil, enfin, de comité d'éthique, mais qui peuvent vraiment aider des textes de loi futurs, sachant qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ces questions d'éthique des technologies, hein, la question de la décision de la voiture connectée, par exemple, hein, ou des objets connectés. Il y a énormément de questions autour de ça. Donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des travaux qui sont menés par des experts des technologies, et il faut se référer aussi à ces travaux. C'est quand même assez étonnant aussi, je crois que c'était le 26 septembre l'an dernier, Google s'est allié à Facebook, s'est allié à Microsoft, s'est allié à... Alors je crois qu'il n'y a pas Apple, mais enfin ils y sont tous. Et ils se sont alliés pour développer avec des chercheurs des réflexions sur l'éthique de leur méthode. Alors, pour l'instant, c'est un coup de com', si je puis dire, hein, puisque c'est quand même, ils sont très très bons en lobbying dans tous les pays du monde, il faut bien le reconnaître, et que ça se passe bien plus pour eux économiquement pour l'instant. Mais ils se mettent à s'emparer aussi de ces questions d'éthique. Et nous, Européens, avec nos modèles de société, nos modèles, nos réflexions au niveau des données personnelles, etc., c'est quand même plutôt à nous de nous emparer de ces questions et d'être avant-gardistes. Et donc, il faut réfléchir, voilà, à toutes ces questions de manière aussi forte, j'espère, que, ou en tout cas, de mener ces réflexions. Voilà, donc il y a beaucoup, je dirais, d'enjeux dans les années à venir. Et donc je reboucle par rapport à la loi sur la République numérique. Ça n'est que une petite pierre dans tout ce qui reste à faire. Alors c'est idéal pour vous, hein, parce que voilà, vous n'aurez aucun mal à trouver je dirais évidemment des emplois et des métiers passionnants, mais il y a beaucoup de choses à construire dans cette société numérique, et ça a été dit ce matin, mais toute la difficulté, c'est comment on régule avec des technologies qui vont extrêmement vite. Et le temps de la régulation, le temps qu'on régule, il y a toujours une autre technologie qui supplante la dernière. Et donc ça, c'est une vraie question. Et puis, évidemment, la question de l'international, sur la neutralité du net, sur les réflexions, on était tout le temps en réflexion avec l'Europe, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes temps de réflexion non plus, les mêmes temps de régulation. Et je crois aussi, pour terminer, que là, c'est mon expérience au Conseil national du numérique, on a essayé, nous, de voir s'il existait des conseils nationaux du numérique dans d'autres pays européens. Bon, la France est le seul pays, évidemment, ce n'est pas non plus le seul conseil capable de réfléchir, mais
il n'existe pas quand même d'endroit de réflexion pluridisciplinaire où ces sujets peuvent faire avancer un peu des gouvernements. Et moi, j'appelle à ce que dans chaque pays, il y ait quand même des groupes de réflexion comme ça qui fassent avancer ces sujets. Voilà, mais en tout cas, je dis bravo à toutes ces présentations d'étudiants qui sont, et d'étudiants, bien sûr, qui sont très intéressantes et très critiques et positivement, évidemment, critiques. Voilà, merci.
Bien, merci Madame Balaguet pour cet autre éclairage sur l'écriture de la loi hein, qui nous montre que c'est un art d'équilibre souvent difficile à maintenir, à établir, souvent instable. Hein, ça venait bien compléter justement l'intervention qui avait été faite déjà sur les aspects légistiques et politiques de la loi.